Et du coup, je vous avais dit la dernière fois que voilà, j'avais vraiment un cœur de parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du coup, on a fait le Père il y a quelques temps. Aujourd'hui, j'avais vraiment un cœur de parler de Jésus. On a déjà parlé de Jésus le jour où on a fait le culte de Noël, 21 décembre. D'ailleurs, merci. Je tenais vraiment aussi à dire merci encore à toutes les équipes qui ont œuvré pour ce beau dimanche où le nom de Jésus a été élevé, où il y a beaucoup d'invités qui étaient là et qui ont été vraiment touchés. Personnellement, on avait plusieurs invités voilà, qui connaissent pas Dieu ou qui sont pas engagés avec Dieu, qui sont venus, qui ont été vraiment touchés. Donc vraiment merci à toutes et à tous. C'était un magnifique dimanche. Et puis voilà, j'espère que vous avez pu bien profiter pendant ces vacances. Je suis sûr que je vais y arriver à un moment donné. Ça y est, j'y suis. Je suis nul en informatique, alors je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué pour arriver à un document. Il faut passer par 10 000 trucs. Maintenant, ça demande des confirmations sur d'autres trucs. Enfin, voilà. Seigneur, merci pour ta grâce. Donc voilà. Et du coup, ben, comme la dernière fois, j'avais à cœur d'être dans le début de la Genèse. La Genèse, c'est vraiment un livre de la Bible qui est tellement extraordinaire, écrit par Moïse, et qui nous parle de l'origine, du monde et de l'origine de l'homme avec Dieu. Et c'est incroyable de voir, quand on parcourt la Genèse, que tout est dit, presque tout ce qui va suivre dans le reste de la Bible est dit dès les premiers versets, dès les premiers chapitres. Et c'est pour ça que c'est vraiment, y a vraiment l'ADN de Dieu et des hommes dès ces premiers chapitres de la Genèse. Et voilà, l'autre fois, c'était super de voir le Père qui protège, pourvoit, promeut. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de demander au Saint-Esprit de parler par rapport à Jésus en cette nouvelle année. Et du coup, si vous avez vos Bibles, ou juste arrêtons-nous un instant sur le premier verset de la Bible. Le premier verset de la Bible, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu. Et je voulais juste m'arrêter à ces trois mots. Ces trois mots pour commencer cette année 2026, au commencement, Dieu. Et on en a parlé, c'est le temps de prendre des bonnes résolutions. Alors voilà, c'est vraiment une mode de prendre des bonnes résolutions. Comme tout ce qui est à la mode, au bout d'un moment, c'est plus à la mode. On dit, ben non, c'est plus bien, maintenant, il ne faut plus prendre de bonnes résolutions. Donc maintenant, on entend, ben ma résolution, c'est de ne pas prendre de bonnes résolutions. Et voilà, du coup, ben, je pense que ça reviendra à la mode ensuite de reprendre des bonnes résolutions. Mais moi, j'y crois aux bonnes résolutions. Moi, je l'ai vécu ces dernières années dans ma vie. Que parfois, ben voilà, on sent Dieu nous parler par rapport à des domaines où il veut nous permettre de progresser, de changer, d'évoluer. Et puis c'est chouette de demander à Dieu, ben voilà, qu'est-ce que cette année pour moi tu veux, quelle est ta volonté pour moi dans cette année? Et juste quand on regarde ces premiers mots de la Bible, au commencement Dieu, et ben voilà, je veux dire, il n'y a pas plus clair que ça. Et je pense qu'une des belles aspirations, peut-être l'aspiration la plus importante, comme on l'a chanté, vécu juste avant, c'est que Dieu soit notre priorité dans notre vie, que Dieu soit vraiment notre priorité. Et je trouve que, et je vais pas, c'est pas extraordinaire ce que je veux dire, vous en êtes tous aussi conscients que moi, mais qu'avec l'évolution du monde dans lequel on est, c'est de plus en plus dur parce qu'on est de plus en plus pollué par tout un tas de choses notamment voilà, on y revient souvent, nos téléphones. Ça m'a marqué pendant les vacances, là j'ai eu un peu de temps, j'ai regardé un documentaire que j'avais jamais voulu voir, je pensais que ça serait nul. Il y a, je sais pas si vous l'avez vu, il y avait un très jeune YouTuber qui avait eu à cœur de gravir l'Everest, Inoxtag. Pour les plus jeunes, je pense ça vous parlera. Moi, ça me parlait pas du tout, rien que son nom déjà me donnait pas du tout envie de voir le documentaire. Mais je me suis dit, tiens, comme j'aime la montagne, je me suis dit, sois pas bête. Il y a des millions, peut-être même 1 milliard de vues maintenant sur le documentaire. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et j'ai regardé. Et alors bon, je me suis régalé en fait. Toute la partie, bien sûr, expédition dans l'Himalaya, enfin tous les autres sommets qu'il gravit avant, super bien filmé, super bien narré. Bon, bien sûr, c'est aux yeux d'un YouTuber, donc c'était un peu rigolo comment c'était fait. Mais ce qui m'a vraiment marqué, donc à la fin, il arrive à son objectif, un jeune de 22 ans, pas du tout sportif et tout, il arrive à gravir l'Everest, aidé par un guide de haute montagne super sympa, toute une équipe. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand il arrive au sommet, donc du toit du monde, Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il est en pleurs, il est... parce que voilà, ça a été un cheminement, c'est pas rien quoi, ce qu'il a vécu pendant toute l'année qui est passée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux gens, il exhorte les gens à suivre leurs aspirations. Et il se met à parler du portable. Donc là, attention, c'est un YouTuber qui dit que le portable, eh ben voilà, qu'il faut vraiment être vigilant, qu'il faut laisser le portable de côté. Donc quelque part, il prêche contre sa paroisse, quoi. Et il dit ça en pleurs et on sent qu'il est honnête et qu'il est vrai dans ce qu'il dit. D'ailleurs, il avait, donc au moment d'aller en Himalaya pour cette ascension finale, il a laissé son téléphone à Paris, donc pendant un mois, il n'a pas son téléphone. Donc encore une fois, un YouTuber qui est payé par ça, il se retrouve pendant un mois sans téléphone portable. Et il dit, ben voilà, j'ai appris à jouer au GSEC, il a lu je ne sais combien de livres, etc., chose qu'il ne faisait jamais. Et ça m'a vraiment marqué que même un YouTuber de 22 ans voilà, se rende compte à quel point cet instrument, bon voilà, qui est très pratique par ailleurs, mais pouvait être nocif. Et je vous encourage, nous on a pris quelques petites résolutions comme ça avec Emmanuel, mais ça va vous sembler bête, mais de pas se coucher le soir avec son téléphone, de le mettre dans une autre pièce, c'est quelque chose, j'ai résisté pendant très longtemps, et là on s'est mis à le faire, et franchement c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Moi j'ai toujours des excuses, il faut que je sois joignable pour mon boulot, etc., machin. On trouve toujours des bonnes excuses, mais si vraiment on le veut, on peut arriver à prendre des choses comme ça qui vont nous aider à avoir justement plus d'espace mental et plus d'espace tout court pour faire de la place à Dieu. Donc moi, je vous encourage, voilà, je ne vais pas vous dire quelle bonne résolution prendre, mais toujours les mêmes, je vous encourage quand même, globalement, si on veut dire, à faire de la place pour la lecture de la parole. On est plusieurs, je sais, là, autour de moi, à avoir redémarré un plan biblique au 1er janvier. Vraiment, je vous encourage à le faire. Il y a des plans de toutes sortes différentes. Si t'es chevronné, tu peux faire la Bible en un an. C'est sûr que ça prend du temps, mais c'est vraiment super. Maintenant, il y a des plans en 2 ans. Tu as des plans pour lire les psaumes, tu as des plans pour lire le Nouveau Testament. Enfin, tu as toutes sortes de plans, mais vraiment prioriser chaque jour la lecture de la parole. Ben voilà, moi, j'assume aussi de dire que l'exercice physique, c'est hyper important. Et essayer tous les jours d'avoir une activité physique, la prière bien sûr chaque jour. Je vous dis, je suis pas exemplaire dans tous les domaines. J'ai vraiment moi aussi besoin de progresser, mais de mettre en place comme ça une routine de prière selon ce qui nous convient, de passer du temps avec des amis dans le sens où d'être redevable de quelqu'un, de pas avoir de secret, qu'il y ait des gens qui sachent tout de nous, c'est tellement libérateur. Et puis voilà, si tu es marié, bien sûr, le temps avec ton époux, ton épouse, régulier. C'est des choses très générales, mais je vous encourage, les amis, je nous encourage à prendre des bonnes résolutions et à demander la grâce de Dieu vraiment pour progresser. Et c'est beau de se dire, ben voilà, c'est ça la grâce de Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Amen. Et du coup, je vais aller ben vite parce qu'il est 11h50. Mais c'est pas grave. Dieu peut faire un miracle. Du coup, je voulais juste revenir sur le verset 26 de Genèse 1. Et Dieu dit, donc, Dieu a créé voilà, toute la nature, les astres, etc., vous savez. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et j'ai déjà dit ça la dernière fois, mais il y a cette notion de Dieu pluriel, le Père, le Fils et l'Esprit qui étaient là avant la fondation du monde. Et quel est le modèle humain de l'image de Dieu? Des fois, on croit que Jésus, parce qu'on parle de Jésus aujourd'hui, a été envoyé et qu'en gros, Jésus a été fait homme. Comme si Jésus a été fait à l'image des hommes. Il y avait des hommes sur la terre. Jésus a été envoyé comme un homme, comme les hommes qui étaient sur la terre. Alors que non, pas du tout. Comme nous le montre ce verset 26, Jésus était là, et d'autres versets le disent, bien sûr, avant la fondation du monde. Donc c'est l'inverse. Les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Et quel a été le modèle humain pour faire les hommes? C'était Jésus qui était là avant la fondation du monde. Et c'est très important de nous rendre compte, de te rendre compte que toi comme moi, nous avons été faits à l'image de Jésus, que Jésus était là avant la fondation du monde, le Fils parfait de Dieu, le Fils dans cette relation Père-Fils-Esprit avant la fondation du monde, cette famille céleste, cet amour, on ne peut pas Et l'amour ne peut pas exister s'il n'y a pas autrui, s'il n'y a pas une altérité, s'il n'y a pas une autre personne. Donc Dieu est amour. Dieu, c'est sa nature d'être amour. Il est cette, le fait qu'il soit amour est rendu possible parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus, ce Fils parfait, eh bien, il était là avant la fondation du monde dans cette relation d'amour avec le Père et l'Esprit. Et du coup, nous avons été créés à l'image de Jésus et nous avons été créés pour être aimés et aimés. Amen. Et ça, c'est vraiment important de se rendre compte que Jésus est notre modèle par excellence. Et puis on voit cette trinité aussi dès le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu crée, il y a le Père qui crée le ciel et la terre. Or, verset 2, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et là, ben, c'est le Saint-Esprit qui est là. Dès le verset 2, vous voyez la Trinité, encore le Saint-Esprit. Et verset 3, et Dieu dit. Et là, il y a la parole de Dieu. Dieu qui s'exprime, Dieu qui dit. Et ça, c'est Jésus. Jésus, la parole de Dieu, Dieu dit. Et voilà, le Père a utilisé cette parole de Dieu. Et où est-ce qu'on trouve ce passage? On trouve ce passage qui nous explique tout ça dans Jean 1, le prologue de Jean. On va le lire. Premier livre du chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement, donc on revient, était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Et donc vraiment, ces mots nous montrent que Jésus, la parole de Dieu, était là dès le commencement. Et il était Dieu, ça nous dit qu'il était Dieu, mais aussi qu'il était avec Dieu. Donc sa nature, c'est d'être Dieu, mais il était avec Dieu, il était avec le Père, avec l'Esprit. Et ça nous montre encore cette altérité et cette relation entre les trois personnes de la Trinité. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, en lui. Donc il n'est pas inférieur, Jésus. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jésus, donc, est la lumière. Jean 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et vraiment, ça me parle dans la nature même de Jésus. Jésus dit, Je suis la lumière. C'était informe et vide, hein. Il y avait les ténèbres qui couvraient, et là, que la lumière soit. Et les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer, comme nous dit Jean. Et Jésus, je suis la lumière. Vous savez que la lumière, c'est un des éléments nécessaires à la vie. Sans lumière, il ne peut pas y avoir de vie. On le voit si les plantes, vous savez, quand on rentre les plantes dans la maison, quand on part en vacances et tout, on essaie toujours de les mettre près d'une fenêtre. Parce que s'il n'y a pas la lumière, quand tu rentres chez toi après les vacances, elles sont la plupart du temps toutes mortes. La lumière est nécessaire à la vie. Et Jésus, il dit, je suis la vie. Jésus en lui-même est cette lumière. C'est lui qui nous donne la vie. Amen. Et c'est beau que, voilà, je vais partir un peu en freestyle dans mes notes, mais c'est pas grave parce qu'on a plus beaucoup de temps. Mais tout ça pour vous dire que les ténèbres n'ont pas pu le retenir. C'est aussi fou de se rendre compte que le jour où Jésus a été crucifié, c'était le milieu de la journée, au moment où il a été crucifié. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres sont venues. Il y a eu vraiment les ténèbres qui ont recouvert la terre. Mais les ténèbres n'ont pas pu le retenir et il est ressuscité. La vie a prévalu. On vit dans un monde qui est difficile et ne faisons pas d'angélisme. On a des vies aussi où il y a des épreuves, où chacun de nous passons par des épreuves. Mais c'est important de se remettre dans ces passages et dans ces considérations vraiment que Jésus est la vie et que les ténèbres n'ont pas prévalu, que Dieu a dit que la lumière soit et les lumières et les ténèbres ont été chassées de la même manière. Dans nos vies, là où il y a encore des ténèbres, Dieu dit que la lumière soit et les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière de Jésus. Amen. Alors proclamons ça chacun de nous dans nos vies. C'est une vérité immuable que Jésus est la lumière qui vient chasser les ténèbres dans nos vies. Donc Jésus est la lumière et Jésus est aussi la parole. Et Jésus est cette parole de Dieu. Alors on a cette parole, on a cette Bible qui a été écrit, qui nous a été transmis. Et cette parole, comme Laurence le disait aussi tout à l'heure, qui est une lampe à nos pieds, dans le psaume 119, ça m'a toujours, j'aime quand voilà, il y a cette continuité dans ce qui est dit lors du culte. Et cette parole nous guide, une lampe à mes pieds. C'est pour ça que je nous disais que ce n'est pas pour être super spirituel de lire sa Bible tous les jours, mais on a tellement besoin de cette parole de Dieu, de cette vie au travers de cette parole. Ça me l'a fait il y a quelques jours où je me trouvais moins bien, je me trouvais, je trouvais que je manquais de vie, etc. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens s'il te plaît, Seigneur. Et en fait, d'un coup, je réalisais que j'avais moins passé de temps avec Dieu, moins lu ma Bible. Et alors qu'on se tourne vers lui, alors qu'on se met dans sa parole, et ben c'est comme, vous savez, dans le psaume 1, l'arbre planté près des eaux. D'un coup, il y a cette sève qui remonte et d'un coup, il y a la vie qui revient. Et là, on peut porter du fruit parce que sa parole est vecteur de cette lumière, cette lampe à nos pieds. Vous savez, hier soir, on a été se promener avec Rose à la chapelle de Monceau. Là, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'était la fin de la journée, il était 18h, il commençait à faire nuit. Et heureusement, on avait pensé à prendre une lampe frontale. Parce que un chemin qui peut être hyper facile de jour, dès qu'il fait nuit, pourtant il y avait une magnifique pleine lune, mais dès qu'il fait nuit, ça peut être hyper dangereux, quoi. Tu peux buter sur un rocher, te casser la figure. Et donc voilà, c'est pas seulement que la parole de Dieu nous guide, genre elle nous montre un chemin qu'on doit suivre, c'est qu'elle nous empêche de nous casser la figure. Et qu'en fait, si tu ne lis pas la Bible, tu vas te casser la figure. On a besoin de cette lampe pour nous montrer les obstacles, nous montrer les pierres à éviter, nous montrer de quel chemin on doit suivre. Quoi. Jésus, le chemin, pareil, je vous raconte mes histoires de balade, mais l'autre fois, je suis allé me balader dans le Diwa. Et c'est fou, je me rappelle de cette balade, je suis trop long, il y a 10 ans j'avais fait la même et à un moment donné le sentier tourne à gauche, ça fait un lacet et il y a 10 ans je me rappelle, je vois pas ça, il y a un autre sentier qui continue tout droit et je me retrouve presque à flanc de falaise, je dis mais qu'est-ce que je fais là, ça peut pas être le sentier, c'est pas possible. Et je fais demi-tour et là je vois l'épingle et je me dis purée mais c'est fou, j'avais fait la même balade il y a 15 ou 20 ans, je sais plus, 15 ans peut-être. Et je me suis rappelé m'être trompé au même endroit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment cette parole de Dieu qui nous guide. Rester pour éviter ces erreurs, éviter ces qui peuvent nous amener dans des situations périlleuses quoi, quand on est loin de Dieu. Donc voilà, je t'encourage mon frère, ma sœur, à ça. Et je voulais, l'aspect important aussi que je voulais aborder, c'est un peu plus loin, c'est Genèse 3 du coup verset 15. Et ça c'est très 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 important, les amis. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous savez, comme on l'a vu l'autre fois. Et malheureusement, Ève puis Adam mangent font ce que Dieu leur avait dit de surtout pas faire. Et ils ne font pas confiance à Dieu et ils font confiance au serpent. Ils mangent ce fruit et là, il y a la malédiction, même pour les protéger. Il y a cette malédiction qui vient premièrement sur le serpent. Et qu'est-ce que Dieu donne comme malédiction au serpent ? Verset 15. Je susciterai, d'abord, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Et verset 15, je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et là, dans cette version, il y a écrit, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Donc ça, c'est vraiment fou. Parce que comme on s'est arrêté sur les premiers mots du premier chapitre, dès Genèse 3, le plan du salut et Jésus-Christ lui-même est annoncé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile ou proto-évangile, Genèse 3, verset 15. Pourquoi ? Parce que je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme. Donc la femme, bien sûr, Ève. La descendance d'Ève, l'hostilité entre toi-même et la femme, entre la descendance, sa descendance et ta descendance. Et en fait, de qui parle la descendance d'Ève là ? Ça parle de Jésus. Celle-ci t'écrasera la tête. Donc la descendance d'Ève va écraser la tête du serpent. Et toi, tu lui écraseras le talon. Peut-être ça, c'est des notions que vous connaissez déjà, peut-être pas tout le monde parmi nous. C'est pour ça que c'est important de dire ces choses-là comme c'est magnifique. Et du coup, je faisais des recherches, et c'est là le petit clin d'œil Alexandre, je suis tombé sur un blog d'ailleurs que je vous recommande, d'Alexandre Nano qui est parmi nous, un bloc de théologie, et c'était vraiment expliqué clairement tout ce proto-évangile. Et voilà, ça m'a donné des précisions que je n'avais pas avant. Et notamment qu'il y a beaucoup de traductions où, en fait, il n'est pas écrit entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête. Il est écrit, il t'écrasera la tête. Si on prend des traductions qui viennent de la Septante, donc quelques centaines d'années avant Jésus, en grec, il y a écrit directement, il t'écrasera la tête. Donc, ce n'est pas vaguement la descendance d'Ève. Non, non, il. Pour annoncer vraiment Jésus. Jésus est prophétisé dès Genèse 3, peut-être 4000 ans, 4500 ans avant Jésus. Rendez-vous compte. Et deuxièmement, et toi tu lui écraseras le. Alors attendez, je veux dire les bons mots. Et toi tu lui écraseras le talon. Et pareil, ça je ne savais pas. Et merci Alexandre, ça m'a. Je trouvais ça tellement éclairant qu'il y a des gravures du 1er siècle qui ont été retrouvées, où qu'en fait les gens étaient crucifiés. Et pourquoi le talon? C'est-à-dire que oui, les bras comme ça écartés, mais qu'en fait le bas du corps était de biais et que c'était le talon qui était percé dans la croix. Parce que si tu mets de face comme ça, je pense que c'est plus compliqué au travers des ligaments, etc., de passer. Mais là, de côté, c'était l'os directement, je pense, qui était accessible. Et pour pouvoir. Oui, désolé, c'est assez violent. Pardon, c'est mon côté un peu infirmier, je ne me rends pas compte de ce que je dis, mais pardon. Ça m'émerveille, mais c'est quand même un peu voilà, rude. Mais en fait, ce qui est beau, c'est de se rendre compte que tout cela a été annoncé depuis tant de milliers d'années avant Jésus-Christ lui-même. Et qu'est-ce que ça m'a, au-delà de comprendre l'historicité de ces choses, et c'est beau de voir combien Dieu a parlé. Mais encore une fois, dès le début, Jésus était annoncé. Donc le plan de Jésus qui vient sur la terre, ce n'est pas un vague plan de secours. Dès le début de son autorité souveraine, le Père a prévu d'envoyer son Fils au bon moment. Et puis aussi, ce qui m'a marqué, c'est que Jésus, encore une fois, ce n'est pas un sauveur triomphaliste, ce n'est pas un sauveur qui se la raconte, ce n'est pas un sauveur militaire qui écrase tout le monde. C'est un sauveur qui donne sa vie et c'est un sauveur qui accepte de se laisser percer, comme on le voit dans ces conditions si horribles, si atroces. Et ça m'a marqué que je pense que c'est pareil pour nous, une bonne résolution en 2026, c'est d'être des disciples de Jésus qui sommes dans cette humilité, qui sommes cette vulnérabilité. De dire comme Jésus, vous savez, Jésus dans le jardin de Gethsémané, juste avant la croix, il a demandé à Dieu si c'était possible qu'il éloigne cette coupe, qu'il éloigne ce sacrifice, si c'était possible de ne pas passer par la croix. Il a demandé à Dieu. Et non, il a dit, mais ta volonté et non la mienne. Et vraiment, je vous encourage, les amis, que en fait, la volonté de Dieu pour nous, elle est vraiment bonne. Et c'est quelque chose qui est prévu pour nous. C'est quelque chose dans lequel Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous accompagne. Mais ça demande, ben oui, ça demande que c'est pas nous qui dirigeons, ça demande que c'est pas moi le chef de ma vie, ça demande des choix qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Alors qu'on est dans cette humilité, alors qu'on est dans cette vulnérabilité, eh bien Dieu nous conduit dans ces sentiers de justice, Dieu nous conduit dans la destinée qu'il a pour chacun de nous. Et des fois, Dieu nous donne pas, des fois on demande à Dieu, mais oh là là, j'aimerais tellement ci, tellement ça. Et Dieu ne nous donne pas ça. Mais c'est pas qu'il nous aime pas, c'est qu'il ne donne pas ce qu'on a envie. Et c'est comme nous avec nos enfants, il ne nous donne pas ce qu'on a envie. Nos enfants, ils nous demandent tout le temps 50 milliards de choses. Aujourd'hui, avec la télé, avec Internet et tout, ils ont l'impression que ça a démultiplié ça. Dieu ne nous donne pas ce qu'on a envie, il nous donne ce qu'on a besoin. Et c'est lui dont nous avons besoin, premièrement. Donc, vraiment, je vous encourage, les amis, à considérer cet évangile qui est prêché dès le troisième livre de la Genèse et à nous rendre compte que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans une relation d'amour et de confiance avec lui. Et quand c'est ça, un des meilleurs signes qu'on est dans la volonté de Dieu, c'est qu'on a la paix. On est vraiment en paix. On se sent pas lourd. On se sent accompagné par lui. On a cette joie aussi qui est là. Amen. Malgré des circonstances difficiles, on peut être dans cette paix et dans cette joie. Amen. Parce que les ténèbres ne peuvent pas le retenir. Et Psaume 36, verset 9, qui m'a aussi touché, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus est cette lumière. Et il y a une toute dernière chose que je voulais vous dire, et c'était un peu, voilà, même encore quand on priait là ensemble ce matin, je demandais à Dieu, mais révèle-moi ce que ça veut dire. Ça m'a marqué dans tous ces passages et dans la Genèse plus globalement, avant qu'on passe au Saint-Esprit la prochaine fois, le bois. Le bois. Il y a ces deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, il y a cette notion de bois qui revient tout le temps dans la Genèse, dans la Bible, plus globalement. Il y a l'arche, l'arche en bois, ce bateau en bois. Jésus, c'est le bon berger. Vous savez, il y a le bâton du berger dont parle David aussi. Il y a la table dont David parle, que Dieu met en face de nos adversaires pour nous protéger. Et bien sûr, il y a plein d'exemples comme ça d'objets ou de choses en bois. Ça peut être la barque aussi dans laquelle il y a les disciples, etc. Et ça finit, bien sûr, le point culminant, c'est le bois de la croix. Et vraiment, alors que je méditais sur ça sur les derniers jours, ça m'a marqué de me rendre compte qu'est-ce que Jésus a appris comme métier. Il était charpentier avec son père Joseph. J'ai dit, mais c'est fou qu'il y ait toutes ces références, pas anodines, quoi, au bois en permanence, et que le métier de Jésus, la formation qu'il a eue par son père, c'était charpentier. Et c'est comme si ça m'a fait penser au bois aussi qu'a transporté Isaac pour le sacrifice. En fait, Jésus a porté la croix en bois lui-même. Il a dû porter cette croix et Isaac a dû porter le bois de l'autel sur lequel il allait être sacrifié. Et j'ai dit, mais c'est fou. Et c'est fou que Isaac comme Jésus doivent transporter ce bois. Mais en fait, ces deux sacrifices-là, ça a résulté derrière en la vie. La mort de Jésus a permis la vie. Et alors qu'on priait ce matin, je sentais vraiment que Dieu voulait nous dire ça aussi. C'est que le bois, ben, il y a les deux arbres dans le jardin d'Éden. Alors un arbre, c'est vivant, ça porte du fruit. Mais après, le bois, ben, c'est mort, quoi. Je veux dire, on s'en sert pour faire du feu ou faire des objets. Et ça paraît mort. Et je sentais vraiment que Dieu voulait nous dire qu'il veut utiliser ce qui est mort pour redonner la vie. Ça me faisait penser, vous savez, au bâton d'Aaron qui a refleuri. Et d'ailleurs, je sais que c'est possible. Ça. Je me rappelle enfin, quelqu'un avait ramené un bois d'Amazonie ou je ne sais plus quoi, d'Amérique du Sud, et qui paraît qu'il avait refleuri comme ça. Et c'est vraiment une image que Dieu, Jésus, voilà, ce charpentier qui a travaillé le bois, presque c'est comme s'il avait travaillé le bois sur lequel il allait être crucifié pour que nous, on puisse être vivants. Et Dieu veut vraiment nous faire travailler, vous savez, travailler à notre salut. Il y a ce verset, travailler à notre salut, faire fructifier notre salut. Et Dieu veut vraiment qu'on médite sur ça, sur ce que même les choses qui nous paraissent mortes dans nos vies, même les épreuves, même les choses peut-être qu'on pourrait abandonner, des aspirations, des rêves, des membres de nos familles qui ne connaissent pas Dieu, plein de choses. Dieu peut ramener la vie dans toute situation. Et voilà, et Dieu agit. Et c'était vraiment ça que je voulais vous dire pour ce début d'année. Et ben voilà, on va finir en priant. S'il y a une épreuve dans la vie à laquelle tu fais face en ce moment, et ben voilà, de proclamer la vie de Jésus, la lumière, de proclamer sa parole, Jésus qui veut encore le sauver. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que Jésus, en fait, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Jésus, on a besoin de son intervention. Et Jésus vient au-dessus de nous, il vient de l'extérieur pour venir nous sortir de la fosse. Alors Seigneur Jésus, merci, on se tient humblement devant toi pour recevoir ton secours, recevoir ton salut, Seigneur. Merci Seigneur. Amen Seigneur. Amen Seigneur. Seigneur, prions les uns pour les autres. Bénissons les uns les autres dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Seigneur, merci parce que 2026 ne sera pas une année comme les autres. tu fais une œuvre nouvelle pendant cette année. Tes bontés ne sont pas à leur fin, Seigneur. Elles se renouvellent encore cette année 2026. Seigneur, nous refusons l'esprit de fatalité. Nous croyons, Seigneur, que tu es bon et que tu vas te manifester. Oh Jésus, quel merveilleux sauveur tu es. Quel merveilleux sauveur tu es. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.